assistant peut en cacher un autre. Une émission préparée et présentée par Yolande Fourchard-Gounel.
Bonjour à tous. Si vous venez au temple de la rue Maguelone le dimanche matin, vous verrez au début du culte quelques enfants assis sagement avec leur monitrice, quitter au bout de quelques minutes leur place pour aller dans une autre salle participer à des activités. Avec eux, Claire, qui est ici pour nous parler de cette activité. Alors bonjour Claire.
Bonjour.
Quand on vous voit le dimanche, vous faites très gardien de petits troupeaux. Ça fait penser à cette chanson d'enfants. Il y a déjà un moment où on parle de petits troupeaux. Et à chaque fois je vois ces enfants, il y a des petits troupeaux qui viennent dans ma tête. Et on voit le plaisir déjà, moi je ne rentre pas dans ce que vous faites, mais on voit le plaisir de ces enfants à être ensemble. Alors, on va parler bien sûr de cette activité, mais avant, bah, puisqu'on est à un protestant peut en cacher un autre, je voudrais qu'on fasse connaissance. Alors, on va parler un peu de vous, de votre parcours. Alors, d'abord, votre enfance. Est-ce qu'elle est protestante?
Oui,
c'est la question traditionnelle.
Donc, mon enfance est catholique, de tradition. Je suis baptisée catholique. Ma grand-mère, en fait, mes grands-parents étaient très croyants, pratiquants. Voilà, donc ça tenait une place importante chez eux. Et moi, j'allais à la messe le dimanche matin.
D'accord. Et ça vous plaisait quand vous étiez enfant?
Oui, non, la messe me plaisait pas. Par contre, j'aimais voir la vie chrétienne de mes grands-parents. C'est-à-dire que ma maman a eu un accident assez grave et j'ai vécu pendant une année à peu près chez mes grands-parents. Et j'ai pu pleinement, en fait, prendre comme ça des gestes, des prières, des attentions qui me montraient... La vie de Jésus dans ce foyer ma mère est restée un moment à l'hôpital et c'est vrai que c'était un vrai soutien. Ouais. C'était quelque chose en plus en fait, à un moment où on n'a pas forcément de réponse, où on ne sait pas comment ça va se passer. Puis j'étais assez jeune aussi, mais ça m'a marqué.
Ouais. C'est la marqué. Pratique en
c'est
fait.
C'est la pratique, c'est pas la parole.
Plutôt ouais. que la théorie.
Exactement.
De la messe.
La messe, on comprend pas en fait.
Non.
On y va, on est obligé d'y aller. C'est un peu comme aller à l'école, mais c'est vraiment cette vie-là en fait qui m'a touchée, mais sans m'en rendre compte.
Ouais.
C'est adulte après qu'on se souvient de ça.
Oui, ouais. on va en reparler après puisque ça a impliqué pour vous des choix œcuméniques dont on reparlera ensuite. Et alors, vous avez fait du catéchisme catholique ?
À l'école. J'étais dans des écoles privées catholiques et on avait du catéchisme à l'école, oui.
D'accord. Et qu'est-ce que vous avez appris?
Pas grand-chose. En fait, on faisait du bricolage surtout,
ouais.
Et je me souviens de bricolage qu'on faisait, mais sinon pas grand-chose, rien en fait.
J'ai eu le même témoignage il y a pas longtemps. Quelqu'un qui m'a dit, pour une émission, hein, donc les auditeurs l'auront entendu ou vont l'entendre, je sais plus quand est-ce que qu'est-ce qui c'était qui m'a dit ça. M'a dit, à part les coloriages, je n'ai rien retenu. Je me souviens qu'on coloriait Jésus, on coloriait Marie, mais à part ça, il ne m'est rien resté.
Oui, oui. Peut-être que c'est peut-être compliqué, ou peut-être un manque de pédagogie dans notre génération.
Oui.
Je pense qu'on voit les choses différemment maintenant.
Mmh.
Après, si ce que je peux retenir quand même, c'est l'énergie des personnes qui s'occupaient du catéchisme. Il y avait quand même quelque chose de joyeux.
Oui.
Voilà. Mais c'est vrai que l'enseignement lui-même... En fait, j'ai l'image d'une roulotte. On avait fabriqué une roulotte, mais je ne saurais même pas...
D'accord. Vous ne savez pas où va la roulotte.
Oui, exactement.
Bon. Et puis alors, vous avez quitté l'Église catholique.
J'ai pas vraiment quitté l'Église catholique. En fait, au bout d'un moment, on n'y va plus. On y va, on est obligé d'y aller. Après, on ne va plus à l'Église quand on n'est plus obligé d'y aller. Et puis, on oublie un petit peu tout ça. Même, on a besoin de le mettre de côté.
Hein?
Et voilà. Après, je crois que... Il y a toujours une graine qui a été germée quand même, mais par l'exemplarité en fait de ma grand-mère, vraiment en fait c'est ça.
Ouais.
Et ça m'est revenu après au moment où dans ma vie, ça avait besoin de revenir.
Et alors, vous avez intégré une église évangélique à Montpellier.
Ouais. J'ai intégré une église, quand je suis arrivée sur Montpellier, assez rapidement, c'était un peu compliqué dans ma vie, et j'étais, j'avais laissé mon métier de côté, j'étais pharmacienne. Et je faisais une formation pour être prof de danse parce que j'ai toujours fait beaucoup de danse, donc c'était je retrouvais une certaine jeunesse.
Ouais.
C'était assez difficile cette formation pour être professeur de danse. Et il y avait une jeune fille, Juliette, qui était toujours paisible, toujours très très paisible et assez jeune. Et c'était un vrai exemple, c'est-à-dire que elle rayonnait. Elle venait toujours consoler. Elle semblait vraiment sûre d'elle et bien dans ses baskets et enracinée. Et ça m'a beaucoup parlé. Je l'ai regardée faire. Et puis petit à petit, en fait,
elle vous a emmené.
Elle me parlait de sa foi et elle m'a invitée dans son église. Et puis c'était un moment où, vraiment, moi le dimanche, j'avais pas grand-chose à faire. Et puis je faisais l'escalade le dimanche. Et
l'escalade.
Oui, mais je m'étais pris une portière de voiture sur le poignet. Donc, je ne pouvais plus grimper et je m'étais arraché un ongle de pied en dansant. Donc, la grimpe, c'était fini et je m'étais dit, et je me suis dit, pourquoi pas, après tout, j'ai rien d'autre à faire.
Ouais.
Voilà. Ça a été, je pense que les évangéliques disent souvent ça, une espèce de révélation, c'est ici que tu dois être, voilà. Et ça a répondu à une soif que j'avais, beaucoup de choses, en fait. Je pense spirituel, le besoin d'être encadré aussi, de trouver des gens, qui ne juge pas, un ensemble. Donc j'ai repris mon parcours spirituel dans une église évangélique avec un enseignement en fait, et c'était ça dont j'avais besoin. C'était l'enseignement de la Bible, des préceptes chrétiens. En fait, j'ai l'impression qu'on bornait mon chemin.
Oui, c'est aussi un sentiment que beaucoup décrivent quand ils sont allés dans les églises évangéliques et qui ne connaissaient pas.
Oui, ou qui avaient un parcours autre.
On leur donnait vraiment les bases.
C'est ça. Et en fait, c'est un chemin borné parce que j'ai l'impression, en tout cas, que il y a un moment dans notre vie, peut-être tout le monde, ou peut-être que moi, ou certains, on n'a plus de repères. Il y a un moment où et c'est vrai que ces repères-là qui sont, non, tu vois, aimer, c'est ça et c'est pas ça. La patience, l'oubli de soi, quelque part aussi, de toutes peut-être ces colères qu'on peut avoir. Enfin, voilà, c'est un nettoyage, je pense, et on arrête d'être centré sur soi-même et on comprend qu'il y a plus important, je crois. Enfin, c'est difficile à expliquer. En tout cas, moi, ça m'a permis d'aller sur un chemin de pardon, de compréhension et d'avoir un objectif, en fait, et qui était...
Et de vous trouver aussi.
Et oui, de se trouver et puis de retrouver aussi, au final, de comprendre, en fait, la pensée de ma grand-mère, la pensée de mes grands-parents, parce que ça n'avait pas été transmis plus que ça, au final. Je savais qu'ils croyaient en Jésus, mais...
Oui.
Voilà. Finalement, je ne savais pas exactement ce que c'était. Et c'est vrai que là, ces précisions-là... On dit toujours passer des ténèbres à la lumière. J'ai vraiment eu cette impression-là, en fait. Voilà.
Et alors, pourquoi vous en êtes partie, finalement?
Alors, parce qu'au bout d'un moment, c'est un peu fermé, ce chemin. Il est peut-être justement trop fermé.
Alors, je voudrais juste... Fermé. Je ne vous demande pas quelle église
bien sûr.
Mais c'était une église qui était liée à la Fédération protestante de France?
Je ne crois pas.
D'accord.
Je ne suis pas certaine.
D'accord.
J'ai pas
donc,
vérifié
pas de
ça.
Contact avec d'autres églises.
Alors, justement, pas du tout de contact avec des autres églises. Et même l'idée qu'il vaut mieux se méfier un peu quand même des autres églises.
Oui, alors ils étaient probablement pas à la Fédération protestante de France. Parce que, en général, les églises qui y sont, on a l'habitude au moins se parler, même s'ils ne sont pas d'accord avec tout, même si les gens ne sont pas d'accord entre eux. Il y a quand même... Ils collaborent.
Alors, je ne sais pas. Je ne peux pas certifier, mais en tout cas, il n'y avait pas de collaboration.
Ouais.
Si ce n'est, je crois, au moment de Noël où ils faisaient le repas, il y avait un repas de Noël organisé par la Fédération protestante. Je ne sais pas si ça vous parle.
Bon,
bref, c'est pas très important.
Okay.
Et voilà. Donc oui, j'en suis partie parce que j'avais besoin d'une ouverture humaniste.
Ouais.
Voilà, une ouverture aux autres croyances, aux autres religions et. Parce que j'avais entamé aussi un parcours, je suis professeure des écoles, et l'enseignement qu'on avait, on a une dame qui s'occupe, parce que je suis dans le milieu catholique, je suis enseignante dans le milieu catholique.
D'accord.
Et on a une enseignante de ce fait pour le côté spirituel, et en fait elle était très ouverte sur les différentes religions et la notion de vérité. Et ça a bousculé un petit peu tout ce que je pouvais apprendre aussi, moi, dans l'église évangélique. Et voilà, je pense qu'il y a eu un moment, il a fallu pour moi aller dans un endroit où on continuait à vivre une vie chrétienne, mais ou plus ouverte.
Oui, parce voilà, que vous parlez de vérité. Donc, l'église évangélique où vous étiez pensait qu'ils avaient la vérité, oui, ouais, eux, et pas les autres, ouais, en gros.
Mais c'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça, vraiment. Et ça ne colle pas avec une vie, avec des enfants qui ont différentes croyances, puis même dans la vie de tous les jours. Au bout d'un moment, ça ne colle pas. Ou alors, il faut rester juste avec... avec les amis de l'église, qui sont super, hein, ça fait une famille, hein, ça peut tout à fait combler. Mais,
c'est en général très chaleureux.
Et oui, et ça peut vraiment, c'est-à-dire qu'il y a le sentiment, le besoin d'appartenance, qui est un besoin humain, là, il est comblé. Mais ça ne collait plus du tout avec moi, ma nouvelle profession, et je ne pouvais pas avoir un regard négatif sur les enfants et les parents des enfants, qui ne croyaient pas comme moi, c'était pas possible.
Et alors, vous n'avez pas eu la tentation de tout abandonner, de dire « bon, j'arrête », vous avez cherché autre chose en tant que spiritualité?
Non, j'ai pas cherché autre chose. Enfin, je suis allée dans différentes églises protestantes, et en me disant que j'allais bien trouver un autre endroit.
Et vous connaissiez déjà le protestantisme d'une façon générale, la différence justement entre les courants luthéro-réformés?
Ça, je l'ai appris dans l'église évangélique. Tout ça, en fait, il y a un enseignement.
D'accord. Ouais. Donc ça, c'était clair. Et donc, vous avez cherché plutôt milieu luthéro-réformé ou
non, je suis allée d'une église à l'autre. D'accord. Et puis après, je suis arrivée au temple de la rue Maguelone et c'était pasteur Woody.
À l'Epuma, donc, et pasteur James Woody.
Et là, l'enseignement qui était donné et l'ouverture qui était enseignée, je me suis dit que ça correspondait vraiment là à mon chemin au jour d'aujourd'hui, là où j'en étais et à mes attentes.
Ah ben, en matière d'ouverture et puis de...
D'ouverture sur la psychologie, sur la philosophie,
ouverte sur tout.
Sur l'art, sur... voilà.
Avec James Woody, effectivement, c'était bien tombé.
Je crois que c'était très bien tombé, oui.
Et qu'est-ce qui vous a plu? Quelle est la phrase qui vous a motivé? Ou qu'est-ce qui vous plaît dans la Bible, dans les évangiles?
Oui, dans les évangiles. Alors, j'ai repensé parce qu'on en avait un petit peu parlé. Et c'est vraiment la notion de ne pas avoir peur. N'ayez pas peur. Je crois que c'est très souvent mentionné, cette notion de peur.
Bien sûr.
Et parce qu'en fait, moi, je me rends compte, hein, d'une manière ou d'une autre, j'ai toujours peur de quelque chose.
Ouais.
Et savoir que cette peur-là, on peut la remettre, et puis que ça va être arrangé d'une manière ou d'une autre, pour l'avoir vécu, et parce que c'est marqué dans les enseignements aussi, ça m'aide à cheminer.
Voilà. Oui, alors là, vous retrouvez finalement ce que vous avez dit votre collègue, là, que vous aviez rencontré, Juliette.
Oui, exactement, exactement.
Qui était sereine. Sérénité. Et vous pensez que sa sérénité, c'était par rapport au message qu'elle avait reçu?
Oui, j'en suis persuadée.
Plus que par un comportement, plus que par...
Non, vraiment par son enseignement, parce qu'elle se sentait... aimée, précieuse. Elle avait aucun doute sur son identité.
Ouais.
Parce qu'il parle beaucoup de ça dans l'Église évangélique, l'identité en Christ. Et ça, je crois que c'est important aussi, aussi de transmettre aux enfants de savoir qu'ils sont infiniment aimables et précieux. Et c'est la même chose pour nous, d'avoir cette image de nous, quoi que disent les autres, quelles que soient nos expériences. Voilà, je pense que ça, c'est important. Et pouvoir avancer le plus sereinement possible dans la vie. Parce que je trouve que ces peurs, en fait, nous enferment, nous rendent non disponibles et égoïstes, au final. Et voilà, moi, je sais que je suis assez émotive et au jour le jour, hein, ça me nourrit.
Et dans les Pumas, vous avez l'impression qu'on insiste assez sur le fait d'avoir la sérénité, ne crains pas, etc. Ou vous pensez qu'il y a des progrès à faire?
Certains pasteurs, plutôt femmes, je pense, ont ce discours-là. Et après, en fait, je ne peux pas vous dire. Moi, j'essaie de le transmettre aussi aux enfants, sans savoir s'ils en ont besoin, au final. Je crois que c'est peut-être moins présent, mais j'ai plus besoin de l'entendre en fait, parce que je le sais déjà. Alors je sais pas, peut-être je fais moins attention maintenant à ces discours-là.
Et donc, vous avez à cœur de le transmettre. Vous le
Oui.
transmettez aux enfants, on va en parler.
Oui. Oui.
Mais aux autres personnes que vous rencontrez, ben là, vous le transmettez ce matin
Oui.
à la radio,
Oui.
donc auprès de nos auditeurs. Donc, cette idée de ne pas craindre, de trouver la sérénité dans l'évangile, dans le
Dans la
rapport
confiance, en fait.
Voilà.
En Jésus qui est proche. Jésus est proche. Dans Philippiens, il se dit Jésus est proche, il est présent et. Et voilà, ça avancera pas peut-être selon nos envies, mais ça va aller.
Vous avez l'occasion en dehors de l'école biblique, donc de.
Je témoigne pas énormément,
ouais.
parce que justement dans les églises évangéliques, il y a quand même beaucoup de prosélytisme,
oui.
et j'ai pas envie de ça.
Ouais.
Et en fait, je crois, j'essaie au maximum d'être dans l'exemplarité, mais je témoigne pas énormément. Il faut que je cherche pas à témoigner de ma croyance en Jésus.
D'accord. Alors vous êtes passé d'une église
oui.
très prosélyte
oui, complètement.
À une
oui,
église
oui.
qui, selon le philosophe Olivier Abel, ne l'est pas assez. Parce que là, on a eu une rencontre avec Olivier Abel
D'accord.
dans la Fédération oui. protestante de France, après l'Assemblée générale qui a eu lieu ben, le mois dernier au Lazaret. Et il y avait Olivier Abel qui parlait du sondage sur les protestants français et qui disait ben, les protestants ont peut-être trop oublié le prosélytisme. Alors vous êtes passé d'un
ouais, tout dépend quel protestant je pense pas tout parce que les églises évangéliques
oui.
enfin c'est
oui.
vraiment c'est important d'aller témoigner
oui, oui,
dans
oui,
la
oui.
rue
ouais.
donc ils sont protestants aussi
oui.
Mais en fait je sais pas si c'est très important par là de proclamer comme ça j'ai pas cette impression là même j'ai pas ça me gêne en fait aujourd'hui.
D'accord.
Ça va être plus dans un encadrement et plus un témoignage, comme je vous disais, d'exemplarité.
Oui.
Voilà, plutôt que mettre des mots. Et la foi ou viendra après, en fait, le témoignage de la foi viendra après. J'ai récemment, en fait, l'année dernière, une maman d'élève, là où est ma fille, qui était pas bien du tout en fait et donc on a passé du temps ensemble et en fait c'est une amie très proche que j'aime énormément et en fait il a fallu 2 ou 3 mois et pour qu'elle sache que j'allais à l'église le dimanche par contre ça je m'en cache pas
moi, oui,
je
oui,
dis
oui,
les
oui.
choses oui je vais oui. aller et en fait elle il s'est avéré que son papa était protestant et que elle cherchait en fait aussi une église donc elle est venue. Et elle fait maintenant un très beau cheminement, en fait,
ah,
dans sa
génial,
foi personnelle. Elle a retrouvé, en fait, elle avait, je pense, soif de spiritualité et de celle-là. Et voilà. Et là, maintenant, je la vois vraiment avancer. C'est très beau, même une famille qui se reconstitue. Et je le fais vraiment en recul et c'est laisser la main. Parce que
oui.
parfois, j'ai l'impression, mais ça, ce n'est que la
mmh.
mienne. Hein.
Mmh.
Si je me mets à parler de Jésus, de ma foi chrétienne, en fait, je parle de moi.
Oui.
Plus que de Jésus. Et c'est comme si, en fait, il y avait besoin de se mettre en retrait et de laisser faire.
Vous savez très bien transmettre. Hein. Je suis contente pour les enfants parce que vous avez effectivement une manière de transmettre les choses qui est remarquable. Alors, ça me fait penser, ce que vous dites, ça me fait penser, je ne sais pas si c'est vraiment un lien, mais quand on interroge des protestants, et qu'on leur demande ce qu'ils ont retenu de leur enfance. Il y en a beaucoup, il y en a quelques-uns en tout cas, je ne peux pas dire beaucoup, je n'ai pas fait de statistiques bien sûr, mais il y en a quelques-uns qui disent, je me rappelle de ma monitrice de l'école biblique, et de ce qu'on faisait, et je me rappelle de son sourire.
Oui, oui, oui. Ah, ça voilà. c'est.
Et il y en a qui m'ont dit qu'ils avaient gardé la foi grâce à ça. Mmh. Alors... on va faire une pause.
Il y a le sourire oui. et en fait pour moi plus que le sourire il y a le regard posé.
Ouais.
Un regard. Et c'est parce que ça c'est aussi moi je sais que je finis avec ça.
Ouh,
vous voulez bien.
Oh là là, on peut mettre la musique.
Je prenais l'avion et je croisais en fait une sœur.
Ouais.
Et alors je sais pas comment dire donc je devais avoir 12 ans quelque chose comme ça et son regard m'a touchée.
Ouais.
Son regard qui regardait vraiment.
Ouais.
Je sais pas, c'est difficile à expliquer. Et ce regard-là, je l'ai retrouvé en arrivant dans les églises évangéliques aussi.
Oui.
Ce regard de regarder pleinement et
ouais.
je sais pas, il y a quelque chose en plus. Et j'espère transmettre ça aux enfants. Plus que le sourire qui peut être finalement figé ou surfait, en fait.
Oui.
Voilà. Ça, ce regard-là de Jésus sur les enfants, ou sur l'autre, en tout cas pour moi, c'est pour les enfants, c'est ça, en fait, que je... C'est mon objectif.
Ouais.
Et ce qui m'oblige, en fait, à moi me laisser...
Oui, pénétrer.
Pénétrer,
ouais.
Voilà. Et à en faire le minimum. Sinon, on est dans... On fait semblant, en fait. On est... On a un masque, en fait. Voilà.
Ouais.
D'être dans cette vérité-là, en fait, quand on parle de vérité.
Alors, on va faire une pause musicale et puis on se retrouve ensuite.
Si j'étais un oiseau, je survolerais les villes, je survolerais les campagnes, les parkings, d'autres parkings, les monuments, les chantiers, je survolerais les chantiers. Si j'étais un oiseau, même tout petit, je survolerais le pays avec le vent, avec les nuages, avec les avions de chasse, les avions de chasse, les avions de ligne. Je survolerai les vignes, je mangerai les raisins, je chierai les pépins le long des cours d'eau. Si j'étais un oiseau, serpent, et ma vie est à terre, mon ventre est sur la pierre, où je ferai ma tombe. Je ne suis qu'un serpent, et de muse en muse, de prairies en prairies, je perpétue mes hécatombes. D'ailleurs, je mange les œufs de colombe.
Alors, nous nous retrouvons avec Claire. Claire Deleuil, je ne vous ai pas présenté. C'est comme
parfait.
Ça qu'on dit. Hein.
Oui, oui, très bien. Bravo.
Parce que c'est pas...
J'ai eu tout d'art, c'est pas évident.
Donc, monitrice d'école biblique à Maguelone. Donc, vous êtes, vous venez au culte. Et là, vous trouvez un culte assez différent du culte évangélique qui ressemble dans sa forme un peu plus à la messe, non ?
Oui, oui, oui. En fait, qui est plus calme, ça fait du bien aussi.
Qui est plus calme par rapport au culte évangélique.
Oui, en fait, par rapport... Parce que différent, certes, après, il y a toujours le plus important, c'est-à-dire quand même un enseignement... important, une prédication qui prend du temps et qui décortique le texte biblique. Après, la musique est beaucoup plus calme. On a du piano et enfin, moi, il y a moins de bruit pour moi.
Ouais.
C'est vrai que ça me fait du bien. Donc oui, plus proche de la messe par rapport
à la forme,
au déroulement. Voilà,
oui,
c'est
oui,
ça, au déroulement.
Forme,
oui, on est d'accord.
Pas du fond.
Oui, oui, oui. Et en fait, puis il y a le Notre Père qu'on retrouve, que j'ai retrouvé. Et là, en fait, c'est vrai que je savais pas du tout qu'il y avait des églises protestantes qui avaient ce lien comme les églises catholiques, effectivement. Donc ce Notre Père, cette prière...
Parce qu'on ne le récitait pas chez les
pas
évangéliques
du tout. Enfin, en tout cas, pas dans l'église où j'allais. Et je l'ai, dans aucune église évangélique où je suis allée, on récitait le Notre Père.
Ah, c'est très curieux. Ça, il faudrait
creuser. Parce que moi,
je
l'ai jamais
vu. Oui, oui, oui.
Je l'ai jamais, ça
je
s'est jamais fait.
Le Notre Père dans les milieux évangéliques. Parce que... C'est dans la Bible, hein.
Mais complètement, oui.
C'est
après,
la seule prière que Jésus ait jamais proposée, hein.
Oui.
Donc, c'est intéressant de ça.
Oui, c'est intéressant.
Si c'est pas dit, et pourquoi on ne le dit pas? On va creuser. Donc, est-ce que la prédication est différente?
Elle est plus soft. Il y a moins de mise en scène, en fait.
Ouais.
C'est plus calme,
ouais.
Moi, tout simplement. Et puis, je trouve que cette ouverture à l'art, à la philosophie, voilà, c'est plus calme, plus ouvert, plus, alors peut-être plus intellectuel aussi.
Oui, ça dépend du prédicateur.
Après, ça dépend du prédicateur, ouais. C'est ça.
Ou de la prédicatrice.
Ou de la
prédicateur, oui.
En fait, on est moins dans le... Mais alors, ça m'embête de dire ça, parce que je veux surtout pas dénigrer le côté évangélique qui est vraiment... Enfin, qui, moi, m'a remis sur pied. Mais on est moins dans l'émotionnel.
Oui.
Voilà.
On peut le dire, c'est, voilà, pas forcément une
oui.
critique.
Oui, bah, je sais pas. En tout cas, c'est mon ressenti personnel. Hein, c'est juste le mien. Voilà.
Oui, oui.
Parce que c'est vrai que... Il y a beaucoup de chanteurs chrétiens avec des guitares, et je trouve que parfois, si je retourne aujourd'hui, j'aurais l'impression d'être à un concert et d'avoir cette stimulation comme ça, qui est peut-être plus liée à la musique, l'ambiance musicale, que réellement.
Ouais. Voilà, et par rapport à la messe, alors comment Mais peut-être vous n'avez pas été à la messe assez quand vous étiez...
Ah si, j'y suis allée très très souvent à la messe.
Même plus vieille, même plus âgée.
Plus âgée, non, j'y suis moins retournée. Enfin, j'y suis allée de temps en temps.
Oui. Vous pouvez faire la comparaison par rapport au discours. Je pose la question. C'est pas seulement pour avoir des points de comparaison, mais c'est parce qu'on va en reparler par la suite de évangélisme, mouvement évangélique. Catholicisme et protestantisme libéral,
Je pense que le fait qu'on ait les recueils, j'ai l'impression, mais en fait ça dépend, parce que il y a l'église, il y a Sainte Bernadette, où il y a quand même des jeunes qui animent une église, qui animent les messes. Il y a des différences par rapport à la prédication, et quoi que maintenant il y a quand même des prêtres qui, me semble, cherchent à ouvrir, à être plus proche en fait de peut-être du quotidien.
Oui.
La grande différence, c'est quand même l'Eucharistie, je pense, entre les catholiques et les protestants, et ce temps qui est consacré en fait à l'Eucharistie.
D'accord. Alors, on va venir quand même à ce que vous faites, hein, l'école biblique, puisque il faut quand même qu'on avance et qu'on parle de ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait à l'école biblique? Alors, donc, les enfants sont au début du culte, ils assistent au début du culte, et puis, vous partez.
Alors, oui, on part, après, on discute un peu avec les enfants, ensuite, maintenant, il y a Roland de Carrière et Mintam qui
fait de la musique.
Oui, c'est ça, qui commence à apprendre des cantiques aux enfants, c'est chouette.
Je les ai entendus la dernière fois,
Ça, c'est nouveau, parce que là, j'avoue qu'au niveau... parce que je ne suis pas seule animatrice, on est 5 parents à tourner.
D'accord, c'est bien ça.
Oui, parce que le but, l'objectif pour moi, c'est surtout de pouvoir assister au culte.
Bah oui, parce que là, vous n'entendez pas les prédications quand vous êtes avec
les enfants. Oui, et c'est vrai que comme j'ai une enfant qui n'est pas très grande, ça permet, moi, de savoir qu'elle a son enseignement, son petit temps à elle, et moi, d'aller... aller au culte. Ceci dit, donc les enfants sont là, donc les enfants apprennent les cantiques, et puis après, alors ça va bouger, parce qu'on a rencontré Ingrid Pratt, là, le samedi.
Pasteur, donc, à
Méréville. Qui a une grande connaissance de l'enseignement des enfants. Voilà, et en fait, jusqu'ici, on se basait sur un manuel qui était fait par les PDF, et donc il y a un enseignement, un texte d'un texte, en fait on décortique ce texte, on peut le jouer, il y a des scénettes, on en parle ensemble. Alors parfois on peut essayer d'échanger sur et faire un lien entre ce que vivent les enfants et ce que leur apporte le texte. Ça prend pas toujours, ça, c'est pas toujours aussi facile que ça. Puis après les enfants proposent diverses activités. Et donc là, par contre, ça va évoluer, parce qu'on a vu une grille, et parce que ce qu'on fait, je pense que ça va très bien jusqu'à l'âge de 10 ans à peu près.
Oui.
Après, les enfants, ils auraient besoin de plus de réflexion, je pense aussi. Donc là, on va passer plus de temps sur un texte, et les enfants vont se l'approprier ils prendront juste un passage biblique et dessineront. On va essayer de fabriquer des kamishibai, des choses comme ça, pour qu'après eux ils puissent transmettre. C'est le théâtre, la manière de conter japonaise, avec, vous avez un grand dessin avec le texte derrière. Il y a un petit théâtre en bois, je sais pas, vous avez un petit cadre en bois. Il y a le texte derrière, et après les enfants peuvent eux-mêmes raconter raconter l'histoire avec la...
Mais ça me fait penser, voilà. je vous interromps 30 secondes, j'ai reçu, pour un protestant peu encaché, un autre, Jérémy Duval, qui a été pasteur et qui a quitté le pastorat. Et il faisait du cirque avec les enfants. Et là, je vais le recevoir au mois d'avril, mars-avril, pour parler justement, dans Thème à Anathème, de la comment il faisait pour faire de la Bible en faisant du cirque.
Voilà. Oui, oui.
Donc, c'est des techniques spécifiques pour intéresser les enfants, vivre.
Oui,
ouais. C'est pas du tout le catéchisme que vous avez eu ou qui se pratiquait peut-être aussi d'ailleurs dans le protestantisme dans les années...
Oui, c'est très bien. Après, là, il faut avoir des compétences particulières et puis l'endroit aussi qui convient. Après, je crois que plus que ce qu'on fait, les enfants, ils se connaissent, ils sont contents d'être là aussi et ils partagent un moment. Après, je pense qu'on peut... Ils sont vraiment disponibles 15 minutes pour étudier la Bible et puis après on passe à autre chose.
Ouais.
Et ils aiment aussi faire les choses par eux-mêmes, en fait, parce qu'on parle de coloriage, mais je pense que c'est plus intéressant pour eux de dessiner, d'exprimer à leur manière ce qu'ils ont compris. Ouais. Ou de faire tout autre chose aussi, s'ils en ont envie.
Et alors, vous savez combien, il y a combien d'enfants ?
Alors, donc j'ai compté il n'y a pas très longtemps, je crois qu'on a une vingtaine d'enfants.
Oui.
Qui sont là. Et voilà. Et par séance, on a 5 ou 6 enfants.
Et pour vous, vous avez vu, alors peut-être que vous ne l'avez pas vu puisque vous êtes arrivé récemment, mais il y a une baisse du nombre d'enfants.
Oui, oui.
Est-ce que vous l'avez vécu de façon difficile ou au contraire, est-ce que ça vous donne...
Moi, j'ai pas vu la baisse d'enfants.
Oui, voilà. Donc,
moi, quand je suis arrivée, en fait, il y avait... donc, c'était il y a 3 ans, ou je ne sais plus, 4 ans. Oui, Élise était petite, donc il y a 5 ans. Il y avait vraiment presque pas d'enfants. Ouais. Il y avait un enseignement une fois par mois, je crois.
Voilà.
Mais parce qu'en fait, rien n'est proposé pour s'occuper des enfants, donc les familles ne viennent pas.
C'est ça.
Contrairement au milieu évangélique où effectivement on laisse son enfant et puis il y a toujours une équipe qui s'occupe d'eux. Voilà. Donc moi, en fait, mon objectif, je suis arrivée, il n'y avait pas grand chose, en fait, qui était proposé. Donc, pasteur Woody m'a demandé si je pouvais m'occuper des enfants et il y a eu vraiment cette idée de me tenir sur la brèche et de me dire, mais il faut être présent et si une famille arrive avec un enfant, il faut qu'il sache qu'on peut s'occuper de cet enfant et que quelque chose est là pour eux. Donc c'était important pour moi de faire un enseignement tous les dimanches.
Ouais.
Et parce que ça permet aussi aux enfants d'être réellement enseignés et puis d'avoir ce lien de communautaire un peu. Je pense que c'est assez important. Et puis on verra. Ça m'appartient pas. Mais l'idée est d'être là, de se tenir prêt et si des familles arrivent, qu'elles puissent trouver une place en tant que famille. Parce que sinon, je pense qu'effectivement, c'est compliqué quand même.
C'est-à-dire que vous ne faites pas seulement l'école biblique, mais vous participez à la construction et à la maintenance, si j'ose dire, de l'EPUMA, de l'Église protestante.
Oui, parce que je trouve que c'est dommage. Il n'y a pas de raison, en fait.
Oui.
Il n'y a aucune raison que cette Église ne soit pas plus vivante. Aucune raison. J'y crois profondément. Si ça marche chez les évangéliques, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas chez nous. Par contre, il faut qu'on ait une structure qui soit là, qui soit solide, qui soit régulière, pour que des familles arrivent et puissent se dire, ici, en fait, on prend en charge tout le monde.
Oui,
voilà.
Oui, oui.
Et les enfants sont les bienvenus et on s'occupe d'eux. Donc c'est un ensemble, mais c'est vrai que c'est peut-être l'objectif encore plus important.
Vous avez le sentiment de bâtir quelque chose, d'être pleinement intégré dans la construction de cette église que vous avez rejoint il n'y a pas très longtemps.
Pas du tout, j'ai pas l'impression de bâtir quoi que ce soit, vraiment. Hein. Non, non, j'ai l'impression que il faut juste être que ça je sais faire et plus d'être utilisé en fait et qu'il faut que je sois là. Point. Enfin que je
d'accord.
Comment dire.
Bon, d'obéir. C'est le terme bâtir.
Oui, voilà, c'est ça.
D'accord.
J'ai plus l'impression d'obéir et de, je m'en occupe. Allez, je m'en occupe, je peux le faire et ça me pèse pas. Trop.
Et alors, vous pensez que des auditeurs peuvent entendre et rejoindre votre problématique qui est justement d'être là, de venir aider sans... Parce que au fond, vous faites ça avec une grande modestie. C'est-à-dire que vous bâtissez quelque chose, selon mon point de vue, mais vous ne voulez pas que ça... avouez que ça vient de vous, c'est-à-dire que vous préférez dire que vous obéissez, d'une certaine façon, à un appel.
Ah oui, mais parce que c'est vraiment ce que je ressens, oui. En fait. Oui, ça, parce que, et pareil, dans mon métier d'aujourd'hui, c'est là que tu dois aller, vas-y. Ouais. Je me pose pas de questions et je veux pas que ça vienne de moi, en fait, parce que si ça vient de moi, ça va pas être terrible.
D'accord.
Il va y avoir des attentes qui seront justement peut-être d'avoir plein d'enfants, d'être déçu s'il n'y a pas suffisamment d'enfants. Toutes ces choses-là, en fait, qu'on peut porter qui sont inutiles. Donc, voilà.
Alors, ouais, les auditeurs peuvent comprendre qu'ils peuvent rejoindre des groupes de bénévoles sans avoir pour but de transformer absolument.
Ah oui, non, complètement. Non, mais même, en fait, là, l'équipe, on est bien, là. On est 5 parents à tourner. Ouais. Donc, les auditeurs peuvent comprendre que s'ils viennent au temple de Maguelone ou dans n'importe quel temple, enfin, je sais pas comment
oui,
ça se passe.
Dans n'importe quelle activité.
En tout cas, à l'église de Maguelone, que tous les dimanches, ils peuvent confier leur enfant et voilà, et que ça se passe
même
bien.
Si
et qu'on sera heureux de les accueillir.
Voilà, et même voilà. Si vous n'avez pas un certificat de baptême protestant ou de tampon protestant ou que personne ne vous a dit que vous étiez protestant, mais si vous avez envie de venir, venez avec vos enfants. Voyez que vous aurez clair.
On a une famille, pardon, je vous coupe.
Non, c'est bon.
On a une maman qui est arrivée d'origine russe et en fait, elle a 2 petits et 2 grands. Et les 2 grands n'ont pas eu d'enseignement. Elle est orthodoxe de ce fait. Et les 2 grands n'ont pas eu d'enseignement chrétien. Et elle me dit, ça manque en fait, il leur manque quelque chose. Et donc elle vient maintenant tous les dimanches à l'église et pour confier ses 2 enfants. Et en fait, elle vient même pas pour quelque chose de spirituel. Au final, c'est pour qu'ils aient des valeurs en fait. Elle me dit, je souhaite que mes enfants aient des valeurs, qu'on leur transmette ces valeurs que mes grands n'ont pas eu. Et pour elle, on sent que c'est très très important. Donc et voilà, elle participe pas du tout à enseigner les enfants, elle vient, elle recueille. Et en fait, mais j'adore voir ça. Ouais. Et puis les enfants, on est ravis de les voir. Alors il y a une petite de 3 ans qui est mignonne comme tout, un plus grand qui est dans une école catholique et qui a déjà beaucoup de connaissances, donc on profite de ses connaissances aussi. Voilà, cette idée de juste transmettre des valeurs.
Eh bien, j'aurais voulu parler encore d'autres éléments dont on avait parlé ensemble, à savoir que finalement, dans votre vie, vous arrivez à concilier votre enfance catholique, votre parcours chez les évangéliques, et puis votre expérience, et puis même votre vie, et sans aucun regret, bon, je trouve pas le mot, mais ça fait rien, vous avez compris. C'est-à-dire que vous vivez ça très sereinement, mais on n'a plus le temps parce que là, on arrive à la fin de l'émission. Donc, je vous remercie, Claire. C'était vraiment passionnant d'entendre ce témoignage qui me fait changer aussi pas mal mon regard sur moi-même. Parce que moi aussi, je suis d'origine catholique, donc des fois, moi, je suis pas aussi sereine que vous, donc ça me fait.
Mais moi, je suis pas sereine du tout.
Enfin, vous dégagez une grande sérénité.
Oh, c'est gentil.
Alors bon, j'espère que nos auditeurs y auront été sensibles. Je les remercie de leur fidélité. Je leur dis qu'ils peuvent envoyer leurs sentiments à un protestant peut en cacher un autre @radiofmplus.org, le tout attaché. Hein, un protestant peut en cacher un autre. Voilà. Et puis je vous retrouve la semaine prochaine. Merci, à bientôt.
Protestant peut en cacher un autre. Une émission préparée et présentée par Yolande Fourchard-Gounel.